Juste une tranche de millefeuille. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Il y a un mois, je vous proposais de découvrir ou de redécouvrir Novecento pianiste d'Alessandro Baricco, un petit livre si on s'arrête au nombre de pages. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro de Juste une tranche de millefeuille, on change de catégorie. Disons que du poids plume, on passe au poids lourd, voire super lourd, avec le roman de Nino Aratichvili, La huitième vie. En effet, je vous embarque pour un voyage de plus de 1180 pages. Mais quel voyage ! Que celui proposé par cette romancière d'origine géorgienne qui va faire de son lieu de naissance le creuset d'une fresque tissée au sein de la famille Yachi et au cœur de l'histoire de l'Europe de l'Est.
Il y a toujours un moment où quelque chose vous manque. Pour moi, ça fait partie de la vie et c'est peut-être bien comme ça. Ainsi, on aspire toujours à atteindre quelque chose ou à arriver quelque part. Ce qui me manque souvent, ce sont certaines personnes, certains détails, des lieux, des odeurs, des choses que je ne peux vivre qu'à Tbilissi. Et quand j'y suis depuis un moment, je commence à être nostalgique de ce qui n'existe qu'en Allemagne. À commencer, bien sûr, par mes amis. J'aimerais pouvoir mettre ces deux mondes en relation l'un avec l'autre. Cette aspiration ne me quitte jamais.
C'est donc Nino Aratichvili que nous venons d'entendre avec cet extrait d'une émission sur la Géorgie, réalisée par Arte en 2018, où elle parlait notamment des manques de l'exil. Je vous propose donc d'écouter un extrait de La huitième vie, avec une petite partie du prologue seulement, puisqu'il fait presque 20 pages. Je m'appelle Nisa. Mon nom inclut un mot qui signifie dans notre langue « ciel ». Za. Jusqu'ici, ma vie n'a peut-être été qu'une recherche de ce ciel qui m'avait été donné dès la naissance comme une promesse sur mon chemin. Ma sœur s'appelait Daria. Dans son nom à elle, il y a le mot « chaos », « aria ». Le désordre et le bouleversement, tout foutre en l'air et ne rien remettre à sa place. Je lui dois beaucoup. Je suis redevable à son chaos. Je me suis toujours sentie obligée de chercher mon ciel dans son chaos. Mais peut-être qu'il s'agit simplement de Brilka. Brilka dont le nom ne signifie rien dans la langue de mon enfance, dont le nom n'est ni écrit ni stigmatisé. Brilka qui s'est elle-même rebaptisée et a exigé d'être nommée ainsi avec un tel entêtement que les autres ont fini par oublier son nom véritable. Même si je ne te l'ai jamais dit, je voudrais tellement t'aider, Brilka, tellement t'aider à écrire ou réécrire ton histoire autrement. C'est pour ne pas m'en tenir à le dire, mais pour le prouver aussi que j'écris tout ça, pour cette seule raison. Je dois ces lignes à un siècle qui a trompé et abusé tout le monde, tous ceux qui espéraient. Je dois ces lignes à une impérissable trahison qui s'est abattue comme une malédiction sur ma famille. Je dois ces lignes à ma sœur, à qui je n'ai jamais pu pardonner de s'être envolée sans elle cette fameuse nuit, à mon grand-père, à qui ma sœur avait arraché le cœur, à mon arrière-grand-mère, qui à 83 ans dansa avec moi un pas de deux, à ma mère qui a cherché Dieu. Je dois ces lignes à Miro, qui m'a infusé l'amour comme un poison. Je dois ces lignes à mon père que je n'ai jamais pu connaître vraiment. Je dois ces lignes à un fabricant de chocolat et à un lieutenant blanc et rouge, à une cellule de prison, mais aussi à une table d'opération au milieu d'une salle de classe, à un livre que je n'aurais jamais écrit si... Je dois ces lignes à une infinité de larmes versées. Je me dois ces lignes à moi qui ai quitté le pays natal pour me trouver et finalement me perdre encore plus. Mais surtout, c'est à toi, Brilka, que je dois ces lignes. Je te les dois parce que tu mérites la 8e vie. Parce qu'on dit que le chiffre 8 est égal à l'infini, au fleuve de l'éternel retour. Je t'offre mon 8. Nous sommes liés par un siècle rouge, à tout jamais, plus 8. C'est ton tour, Brilka. J'ai adopté ton cœur et catapulté le mien au loin. Accepte mon 8. Tu es l'enfant magique, c'est toi. Passe à travers le ciel et le chaos, passe à travers nous tous, à travers ces lignes et le monde des fantômes, passe à travers le monde réel, le retournement de l'amour, de la foi, écourte les centimètres qui nous ont toujours séparés du bonheur, passe à travers le destin qui n'en était pas un. Tu en seras capable. Sois tout ce que nous avons été et n'avons pas été. Sois lieutenant, funambule, marin, comédienne, cinéaste, pianiste, amante, mère, infirmière, écrivain. Sois rouge et blanche et bleu. Sois le chaos et sois le ciel. Sois eux et sois moi. Et ne sois rien de tout cela. Danse surtout d'innombrables pas de deux. Passe à travers cette histoire. Laisse-la derrière toi. La 8e vie de Nino Haratichvili s'apparente à un roman fleuve, une saga familiale qui commence en Géorgie, donc, en 1917, à la veille de la Révolution russe, au sein de la famille Yatchi, dont le patriarche est un chocolatier hors pair. Et vous découvrirez que ce chocolat y tient un rôle majeur dans l'héritage de cette famille. C'est le destin de Stasia, jeune femme rêvant de devenir danseuse étoile, que nous allons suivre tout d'abord, avant de continuer avec l'histoire de Christine, sa demi-sœur, de Kostia et Kitty, les deux enfants de Stasia, d'Hélène, sa petite-fille, de Daria et Nisa, ses arrière-petites-filles, jusqu'à la dernière descendante, Brilka. Et c'est à Brilka que la narratrice Nisa, sa tante, va raconter les 7 vies qui précèdent la sienne sur un siècle. 7 vies d'une même famille, sans parler de tous les personnages qui vont croiser, accompagner ou modifier leur route. La 8e vie, c'est en effet l'histoire d'une famille traversée et marquée par l'histoire de l'Europe de l'Est avec tous les traumatismes du XXe siècle que la Géorgie a subis, depuis la Révolution d'octobre, le soviétisme, le national-socialisme, la guerre froide, jusqu'au poids de la Russie toujours présent. Ce roman nous parle d'exil aussi, de quête d'identité, de la place de la famille dans une vie entre refuge et aliénation. La 8e vie est le 3e roman de Nino Haratichvili. Il a nécessité pour elle pas moins de 4 années de recherche qu'elle a menées en Géorgie, en Russie ainsi qu'en Ukraine. Il est paru en 2017 aux éditions Piranha et a été ensuite traduit en français en 2021 chez Gallimard. C'est un récit qui prend de nombreuses tournures tragiques, avec des élans brisés par la grande histoire, des déchirements au sein de cette famille, mais aussi des histoires d'amour, des histoires d'amitié fortes qui pourront pour certaines franchir les frontières malgré tout. Ce sont des personnages dont le récit nous touche profondément, avec des figures emblématiques qui semblent porter cette famille à bout de bras au fil des années, aussi de très beaux portraits féminins. Qui ne restera pas insensible au destin de Kitty, par exemple, obligé à l'exil, mais je n'en dirai pas plus. On pourrait qualifier ce livre de roman d'apprentissage également, avec entre autres la parole de Nisa, qui à travers la destinée des membres de cette famille souhaite donner toutes les clés à sa nièce Brilka, jeune adolescente en quête de repères, pour traverser la vie sans subir le poids de son héritage familial. À travers l'écriture, j'ai voulu montrer que les événements historiques ne sont pas isolés, ils sont toujours la conséquence de ce qui s'est passé avant. Cette corrélation constitue la structure de mon roman. Tous les personnages sont ancrés dans l'histoire et sont liés les uns aux autres, dira Nino Haratichvili de son roman. Nino Haratichvili est née à Tbilissi en 1983, où elle passera sa jeunesse dans un environnement très féminin. Une enfance marquée par la pauvreté, mais aussi par la solidarité des Géorgiens entre eux. Après avoir passé 2 années de son adolescence avec sa mère en Allemagne, elle y reviendra, à l'âge de 20 ans, pour s'y établir et étudier le théâtre. Nino Haratichvili vit toujours en Allemagne, elle continue d'écrire en langue allemande tout en revenant fréquemment dans son pays natal. Elle s'est d'abord fait connaître grâce au théâtre, avec une 30aine de pièces en tant que dramaturge et metteuse en scène. On lui doit aussi 15aine de romans, dont seulement 4 ont été traduits à ce jour en français. En 2011, elle a reçu le prix du premier roman du Buddenbrookhaus Lübeck pour Yuya, paru en 2010. Son dernier roman traduit en français, La lumière vacillante, à lui, fait partie de la sélection de France Culture et de Nouvel Obs pour la rentrée littéraire 2024. Et ce qui fait l'essence des romans de Nino Haratichvili, c'est bien l'histoire morcelée de cette Europe de l'Est qu'elle nous conte à travers le passé de sa terre natale, la Géorgie.
Как рыба та виси,
сад, как твой лоб.
clore cette émission, je vous propose d'écouter un deuxième et dernier extrait de La Huitième Vie. Il s'agit du début du livre 6, intitulé Daria. Daria, qui est la sœur de Nisa. Pour Daria et moi, l'Union soviétique, c'était les sempiternelles marches funèbres et processions d'enterrement qui accompagnaient les vieux messieurs du parti à leur tombe, des œillets partout, des shows macabres retransmis par toutes les chaînes de télévision. L'Union soviétique, c'était pour nous les immuables colonies de vacances, foulards de pionniers autour du cou, les plantations de thé, l'apiculture et les kolkhozes, les chaussettes chinoises blanches, les gobelins représentant des scènes de chasse sur les murs, les bonbons au chocolat avec leurs images du film Mishka dans le Nord, la limonade à l'estragon chez la Gids, la gaz 13 de notre grand-père, les blocs de pâte à modeler multicolores ornés de grenouilles, le shampoing pour enfants cria-cria, la mousse à raser Start de grand-père, la poudre avec la tête de chat qui se trouvait dans l'armoire de la salle de bain et que nous n'étions pas autorisés à utiliser. Moscou rouge, le parfum de Stasia qui sentait la vieillesse et donnait des maux de tête, la notion corporelle hygiène, le savon lessive brun et inodore qui portait ce nom. C'était l'ours Micha, avec sa ceinture de médaille, mascotte des Jeux olympiques d'été de Moscou en 1980. Cet ours a perduré sous toute forme de jouets, sur des fanions, des assiettes et des tasses bien des années encore après les Jeux dans presque tous les foyers socialistes. C'était les gigoulis jaunes, les volgas noirs et les ladas blanches, les étoiles rouges en plastique, les badges qu'on s'épinglait sur le buste avec la photo de Lénine bébé ou enfant. Âge indéfinissable. Pour moi, l'Union soviétique, c'était l'enfance avec ma sœur. C'était la puissance de notre grand-père. C'était les innombrables compliments adressés à Daria comme les cris d'une foule en liesse adressés à une star du rock. C'était l'absence de père. C'était les gloussements nocturnes sous nos couvertures dans la maison verte. C'était les cours de danse dans la grange auxquels, pour une raison étrange, j'étais seule à prendre part, Daria n'y étant pas astreinte. C'était la fascination devant le visage voilé de Christine et les disputes constantes entre Hélène et son père, entre Daria et moi. C'était les allées et venues entre le nouvel appartement d'une pièce et demie dans un immeuble moderne et la maison verte. C'était l'amour qui pardonnait tout de Kostia pour Daria et l'amour grincheux mais inconditionnel de Stasia pour moi. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle tranche, toujours sur l'autre radio.